Bonsoir messieurs, on remercie Rudy Bokhara pour qui nous soutient pour le cours de ce soir, pour la Refoua Shelema de Chava Bat Esther, de Dan Ben Sara, de Sandy Emma Dolly, Eda, Sarah, Simcha, Batchirel. Amen. D'accord, une grande Refoua Shelema et beaucoup d'Atzlacha. Amen. Alors, bien évidemment, on termine ce qu'on appelle Tzedal Aderer. Tzedal Aderer, c'est la provision pour le chemin. Qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi cette expression? C'est d'avoir un dernier renseignement sur Hanouka pour prendre la route. On prend la route parce que vous savez que lorsqu'on vit une fête du calendrier, il faut forcément en tirer quelque chose que l'on prend avec nous. C'est pas simplement d'allumer des bougies tous les soirs, c'est important bien évidemment, mais c'est pas que ça. C'est d'essayer de dégager quelque chose que l'on puisse garder avec nous et qui va nous accompagner pendant la période qui s'ouvre maintenant devant nous. J'attire déjà votre attention pour vous dire que, bien évidemment, la fête de Hanouka est une fête qui n'est pas dans la Torah. Ni Hanouka, ni Purim, d'ailleurs. Les deux fêtes sont instaurées par les Chachamim. Et en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que d'après la Torah, il n'existe aucune fête pendant l'hiver. Rien. Pendant la période hivernale, le froid, la nuit qui est longue, etc., la Torah ne donne aucune fête. Toutes les fêtes, finalement, si on résume, on a quoi? On a de Pessah à Soukhot. D'accord? Donc c'est la saison du beau temps, c'est la saison des récoltes, etc. Pendant l'hiver, on est tous en sommeil, en quelque sorte. Et donc la Torah ne donne aucune impulsion pendant toute la période hivernale.
Tout Bishvat, c'est des Rabbanan.
C'est même pas des Rabbanan, c'est rien. Donc les deux seules fêtes qui nous accompagnent pendant l'hiver, c'est Hanouka et Purim. D'accord, qui vont donner un petit rythme comme ça de lumière pendant les ténèbres de l'obscurité, les ténèbres de l'exil, d'accord, des difficultés de la vie. D'accord, c'est deux événements que les Chachamim vont instaurer. Et je vous rappelle que l'ordre d'apparition de ces fêtes, c'est bien évidemment Purim et ensuite Hanouka, puisque Purim, c'est à l'époque de la destruction du premier temple, après la destruction du premier temple, alors que Hanouka, c'est à l'époque du deuxième temple de Jérusalem. D'accord. Donc même si dans le calendrier, dans les mois du calendrier, bien évidemment, le mois de Kislev est avant le mois de Hadar, mais pour autant, la fête de Purim se produit, les événements de Purim se produisent avant, bien avant, les événements de Hanouka. Une fois qu'on a rappelé ça, quelle que soit la fête, que ça soit une fête de la Torah ou une fête des Chachamim, il y a toujours des points communs aux fêtes juives, toujours. Les points communs, c'est quoi? C'est la spiritualité, c'est la kedusha, l'inspiration, c'est l'élévation, c'est de trouver les valeurs qui viennent nous accompagner, la simcha, la joie que l'on doit ressentir à chacune de nos fêtes, même s'il y en a où c'est plus important que d'autres. Mais ce sont les points communs de toutes les fêtes juives, d'accord? C'est vraiment ces points-là sur lesquels tout se construit. Et malgré tout, bien qu'il y ait des points communs, il y a quand même des spécificités à chaque fête. Chaque fête a un élément qui est particulier à la fête. Rosh Hashanah, ce sera le chauffard. Kippour, c'est le jeûne. Soukhot, c'est le loulav, etc. Chaque fête a sa spécificité. Donc, ça veut dire que dans le lot de toutes les fêtes, il y a les points communs. Et puis, il y a, bien évidemment, pour chacune des fêtes, le symbole, la chose qui est importante que l'on célèbre pendant la fête. Du coup, se pose la question de savoir, pour Hanouka, qu'on vient de terminer là, pour la fête de Hanouka, quel est le symbole de Hanouka? Quelle est la spécificité halakhique de la fête de Hanouka que l'on ne retrouve nulle part ailleurs?
Les beignets. Hein.
Alors, à part les beignets, juste avant les beignets, d'accord, qu'est-ce qui fait la particularité de Hanouka? En dehors, je ne parle pas bien évidemment de l'allumage de la Hanouka, parce que vous allez dire, bah, l'allumage de la Hanouka, ça n'existe pour aucune autre fête. Oui, nécessairement. Mais quelque chose de plus, quelque chose qui va vraiment porter la fête, porter cet allumage de la Hanouka. Et nos maîtres répondent, la spécificité de la fête de Hanouka, c'est sans aucun doute la notion de Pirsoumanes, la publication du miracle. On doit publier, on doit communiquer autour du miracle de la fête de Hanouka. Cette notion halakhique, j'ai bien dit halakhique, de la publication du miracle, elle est vraiment spécifique pour la fête de Hanouka.
À Purim, c'est pas pareil?
Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas de notion de Pirsoumanes en tant que mitzvah halakhique. Il n'y a pas. Sauf si non, tu penses à quelque chose en particulier. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas. Et on pourrait se poser la question, bien évidemment. Pourquoi à Hanouka, il y a cette notion de Pirsoumanes? qui est poussée à l'extrême, hein, comme jamais une autre fête, par exemple. Quand on va nous parler de l'endroit où on doit poser la Hanoukia pour l'allumer, etc., dans un monde idéal, à l'époque où on était tranquille en Israël et qu'on vivait sur notre terre et qu'on était libre de vivre sur notre terre, etc., à cette époque-là, je vous rappelle que la Hanoukia, on l'allumait à l'extérieur des maisons. Pas à l'intérieur, pas dans nos salons. On les allumait à l'extérieur, à tel point que finalement, les gens, ils sortaient chez eux pour allumer leur Hanoukia, et une fois qu'ils avaient allumé, ils rentraient chez eux. Et la mitzvah a été faite, c'est terminé. Ah ouais, mais on est tous à la maison, là, on ne voit rien. On ne voit pas la Hanoukia. Oui, effectivement, on ne t'a jamais demandé de voir la Hanoukia en réalité. La mitzvah, c'est d'allumer. Et la mitzvah, c'est d'allumer à l'extérieur. Pourquoi à l'extérieur ? Pirsoumanes. Parce qu'il faut publier le miracle, il faut montrer le miracle à l'extérieur, que tous ceux qui passent dans la rue puissent voir, ouais, il y a une Hanoukia qui est allumée ici. C'est, et donc, du coup, je pense au miracle, comment ça s'est passé, comment ça s'est produit, etc. Ça m'inspire dans mon comportement. Et donc, la mitzvah, c'est les parsem. C'est de publier le miracle, d'aller à l'extérieur. À tel point que dans la Gemara, on va nous poser les questions. Et si toi, dans ta petite maison, là, que tu as deux portes d'entrée, où est-ce que tu dois allumer ta Hanoukia ? Et si tu en as deux, mais qui ne sont pas sur la même rue ? Là, la Rabbah va nous dire, dans ce cas-là, tu vas en allumer deux. Pour ne pas que les gens puissent imaginer que tu n'as pas réalisé ta mitzvah de Pirsoumanes. Donc le Pirsoumanes, c'est essentiel pendant Hanouka. Et on va nous dire, bon, ça, c'est dans un monde idéal. Encore aujourd'hui en Israël, Baruch HaShem. Aujourd'hui en Israël, on le fait, on le voit de plus en plus. D'accord, dans la vieille ville, par exemple, à Jérusalem, il y a des Hanoukiot partout dehors. Même aujourd'hui, Baruch HaShem, dans les villes en Israël, tu as des Hanoukiot à l'extérieur. Pas que à l'intérieur. Mais à l'époque, c'était que à l'extérieur. C'était ça la mitzvah, c'était d'allumer à l'extérieur. Alors on va nous dire, ah, mais dans les époques dangereuses, dans les époques où il y a des persécutions, des maltraitances des juifs, etc. Alors on nous dit, tu sais quoi, allume-la à l'intérieur. Parce que c'est trop dangereux à l'extérieur. Mais combien même tu la mets, tu l'allumes à l'intérieur, essaie de l'orienter vers l'extérieur, devant ta fenêtre. D'accord ? Si tu n'as pas une fenêtre, alors devant ta porte. Mais pourquoi ? Les parsem et anes, d'accord, c'est cette idée de publier le miracle. On va aller vers l'extérieur, on va chercher quelque chose à l'extérieur. Chose qui va justifier, bien évidemment, les allumages publics que l'on voit de tous les bêtes rabattes du monde, etc. Il n'y a pas pour les autres fêtes. Il n'y a pas pour les autres fêtes cette notion-là de faire le truc dehors. Pourquoi ? Parce que c'est ça la mitzvah, les farsem et anes. Et la question est de savoir, mais pourquoi ? Pourquoi Hanouka, la spécificité de cette fête, se construit sur cette notion de Pirsoumanes. Pourquoi on ne le dit pas pour Pessah, par exemple ? Honnêtement, les miracles de Pessah sont beaucoup plus importants que les miracles de Hanouka. Même si on va nous dire, oui, non, mais c'est important, les miracles sont cachés dans la nature, parce que finalement, c'est quoi le miracle de Hanouka ? C'est la victoire militaire, d'accord ? Là où on aurait pu dire, bah, c'est naturel, d'accord ? On était plus malins, les plus rusés que les autres, alors on a gagné, c'est bien. D'accord, c'est vrai que c'est une notion comme ça de voir la main de Dieu dans la nature, c'est très important. Mais il n'empêche, concrètement, les miracles de Pessah. À aucun moment, on nous dit dans la Halakha qu'il faut amener les miracles de Pessah à l'extérieur, pour en parler à l'extérieur, et on va faire des trucs pour illuminer la rue, pour montrer qu'il y a eu des miracles. Ça n'existe pour aucune fête, ni à Pessah, ni à Pourim, ni rien.
Évidemment, on a eu un miracle avec les Maccabim par rapport à la guerre, mais ce n'est pas tellement sur ça qu'on fait le miracle, c'est plus sur...
C'est tout de suite ce qui vient maintenant, d'accord ? Donc, déjà, cette notion de Pirsoumanes, il faut qu'on explique pourquoi. D'accord ? Pour Hanouka en particulier, il y a cette notion de Pirsoumanes qui n'existe pas pour les autres fêtes. D'accord ? Pour aucun autre miracle de notre histoire, alors qu'on en a eu beaucoup, Baruch HaShem, d'accord ? Pour aucun autre, on a cette notion de les farsem et anes. Donc, ça, c'est, il faut qu'on le justifie. Deuxième question, celle que tu viens de poser. Le Maharal de Prague, c'est lui qui pose la question. Le Maharal de Prague pose une question qui est géniale. Il dit... À Hanouka, on célèbre deux miracles différents. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a deux. Il y a le miracle de la fiole et il y a le miracle de la victoire militaire. Bien évidemment que la victoire militaire est un miracle. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un petit groupe d'hommes, des Kohanim, qui ne sont pas aguerris, qui ne sont pas armés spécifiquement, spécialement, qui ne sont pas nombreux, que ce petit groupe-là est en mesure de chasser l'armée grecque, avec tout ce que représente l'armée grecque de l'époque, hein, d'accord, avec les chars, avec les éléphants de combat, avec les armes, avec la stratégie, avec le nombre, D'accord ? On dit, ah, dis-moi, si tu n'es pas capable de voir ça comme un miracle, c'est que tu n'as rien compris à l'histoire juive. D'accord ? Le juif doit être capable de voir, à travers toutes les victoires militaires, la main de Dieu. D'accord ? Parce qu'on n'est pas nombreux, on n'est pas armés, c'est des Kohanim qui n'ont jamais fait la guerre de leur vie. D'accord ? C'est absolument improbable qu'ils arrivent à vaincre l'armée grecque. Donc le Maharal nous dit, enfin les Chachamim nous disent, la fête de Hanouka, ce sont deux miracles. Tu as le miracle de la fiole, qu'on connaît tous, et le miracle de la victoire militaire. Et le Maharal pose la question, parmi ces deux miracles, lequel est le plus important ? Lequel est le plus grand ? Réponse explicite du Maharal, la victoire militaire est bien plus importante que le miracle de la fiole d'huile. Bien plus. Et que le miracle de la fiole n'est là que pour nous montrer que l'événement Hanouka est un événement miraculeux de manière évidente. De la même façon que la fiole, c'est pas normal qu'elle brûle 8 jours et qu'elle a brûlé 8 jours, ça c'est absolument pas normal, c'est surnaturel, c'est une intervention divine. Eh bien, ce miracle-là vient illuminer l'événement Hanouka pour nous dire que la victoire militaire, c'est aussi un miracle. Ne va pas croire que la victoire militaire, c'est un truc de chance ou de stratégie. Pas du tout. La victoire militaire, c'est un miracle. Et même, dit le Maharal, c'est le miracle le plus important de Hanouka. C'est celui-là qu'on célèbre à Hanouka. C'est la victoire militaire.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on met l'accent... On met plus
deux minutes, c'est la question qu'il a posée, mais je l'amène. Et donc, du coup, l'histoire de la fiole n'est là que pour... C'est un révélateur, en fait. L'histoire de la fiole, c'est un révélateur. D'accord ? Qui vient montrer que tous les événements de Hanouka sont miraculeux. Et que la main de Dieu est partout. Et donc, le Maharal va nous dire... Le miracle de la victoire militaire est même plus grand que celui de la fiole, parce que lorsque Dieu se manifeste dans la nature, c'est toujours plus grand que lorsque Dieu se manifeste au-delà de la nature. Toujours, ça c'est un grand principe qu'on a depuis l'histoire de la sortie d'Égypte. Depuis l'histoire de la sortie d'Égypte, Nachmanide décrit explicitement que les miracles surnaturels ne sont là en réalité que pour une seule chose, pour nous apprendre à voir la main de Dieu dans la nature. Pourquoi est-ce que c'est plus grand ce genre de miracle-là ? Parce que lorsque la nature participe au miracle, c'est quelque chose de plus puissant que lorsque Dieu laisse de côté la nature en disant « Bon, ok, il y a une urgence, je laisse de côté la nature et je viens tout casser, je viens avec mes gros sabots, je viens me manifester à l'histoire, dans l'histoire de l'humanité. » C'est toujours plus grand, les miracles naturels, que les miracles surnaturels.
Surtout qu'à Pessah, on avait besoin des miracles pour sortir. Donc on avait besoin de la victoire militaire, mais la victoire de la fiole, on n'en avait pas vraiment besoin.
La victoire, les miracles de Pessah, ils sont surnaturels. Pourquoi est-ce que Dieu ne prend pas le temps de faire participer la nature aux miracles de Pessah, etc. ? Parce qu'on n'a pas le temps. C'est une urgence absolue. Les enfants d'Israël étaient au 49e degré d'impureté. S'il restait encore un jour de plus, c'était foutu pour eux. Donc, Akadosh Baruch Hu dit, OK, il y a une urgence. Je laisse de côté la nature. J'interviens. D'accord, je casse toute la nature. Je fais les plaies, les ouvertures de la mer, etc. Je viens pour sortir, extirper mon peuple de la nation égyptienne. Bien, c'est une urgence, mais c'était nécessaire. D'accord, parce que sinon, il n'y aurait plus de peuple d'Israël. L'histoire de la fiole, elle n'est pas du tout nécessaire. C'est un miracle qui ne sert absolument à rien. Mais absolument à rien.
Pour les enfants.
Ouais, c'est ça. Il sert à rien. C'est un miracle qui ne sert à rien. Pourquoi à rien ? Parce que d'un point de vue halakhique, la halakha nous dit que lorsque tout le peuple est impur, les lois d'impureté n'existent plus. Donc si tous les kohanim sont impurs, eh bien on a le droit d'allumer la menorah avec de l'huile impure. Alors pourquoi est-ce que Dieu a besoin de nous dire « Ah, attends, je vais venir t'aider, je vais te faire en sorte que tu aies une petite fiole là, d'huile pure, elle va durer 8 jours au lieu de rester qu'un seul jour, comme ça vous aurez le temps de préparer de l'huile d'olive pure, parce que vous allez vous purifier en 7 jours, et après vous allez préparer de l'huile, etc. » Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ce miracle. Et en plus, pire que ça, si tu es tellement rigoureux pour ne pas avoir de l'huile impure, ok, c'est très bien, à la rigueur, hein, d'accord, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que tous les kohanim en question, ils sont tous impurs. Parce qu'ils ont fait la guerre, ils ont touché des morts, d'accord ? Donc ils sont tous impurs. Sauf ce qui signifie que quand ils ont pris eux-mêmes la fameuse fiole d'huile, « Waouh, on a trouvé une fiole pure, génial !» Et le problème, c'est qu'en l'ouvrant, eh ben, ils l'ont rendu impur eux-mêmes. D'accord ? Donc cette huile-là, ok, elle était pure à l'origine. Mais elle a été fabriquée en état de pureté, ok. mais en touchant, en manipulant la fiole, ben elle devient impure, cette fiole, de toute façon. Donc, le miracle, il sert à rien, il est inutile. Ça fait déjà des années qu'on n'a pas allumé la menorah. On n'est pas une semaine près, sérieux. D'accord, à Kadosh Baruch Hu, ça va si tu veux faire des miracles. D'accord, on en a besoin, des vrais miracles, on a besoin vraiment. D'accord, fais pas, ne gaspille pas nos miracles pour des choses qui servent à rien. D'accord, donc, nous, on a l'impression que le miracle le plus important, c'est la fiole. Alors qu'en fait, le Maharal nous dit, et pas que le Maharal, hein, en fait, hein, nos Chachamim nous disent, le miracle le plus important, il ne faut pas se tromper, c'est la victoire militaire. Et c'est d'ailleurs pour ça, hein, que dans le texte de Al-Anissim, on parle que de la victoire militaire. Regardez le texte qu'on a lu pendant 8 jours. D'accord, on ne parle que de la victoire militaire. On ne parle de rien d'autre. On a eu là, tu as livré les puissants dans les mains des faibles. Tu as livré les nombreux dans les mains des peu nombreux. Et t'as livré les impurs entre les mains des purs, etc. Magnifique, magnifique. Donc, tac, et les Hashmonaïm sont venus. Ils ont chassé les Grecs. Et ensuite, qu'est-ce qu'on dit les dernières lignes là, d'accord. Et ensuite, on est rentré dans le Beth Amikdash. On a purifié le Beth Amikdash. On a allumé la menorah. On ne parle pas du tout du miracle de la fiole. On dit on a allumé la menorah, c'est tout. C'est tout. Le miracle le plus important, c'est bien évidemment celui de la victoire militaire. Mais pourtant, et donc c'est là maintenant votre question, et pourtant, la seule chose que l'on manifeste à Hanouka, c'est l'allumage. On ne célèbre pas d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment on aurait célébré une victoire militaire, mais on ne célèbre pas, nos Chachamim n'ont pas cherché à célébrer la victoire militaire. La seule chose qu'on célèbre, visuellement, physiquement, c'est les fioles. J'allume la menorah en souvenir du miracle de la fiole. Bah d'accord, mais la victoire militaire, on a dit que c'est ça le plus important. C'est ça que tu devrais célébrer. On devrait organiser tous les ans un défilé militaire, d'accord, à Hanouka, un grand défilé militaire, avec la main d'Hachem, avec une grande Torah au milieu pour montrer que la victoire militaire, elle dépend d'Hachem. D'accord, fais un truc comme ça, quoi, pour nous faire comprendre. Pourtant, rien, il n'y a rien qui ressemble à la moindre célébration de la victoire militaire. Ce qu'on célèbre, a priori, c'est la fiole. Donc, si c'est la victoire militaire qui est la plus importante, pourquoi est-ce que c'est la fiole qu'on célèbre? Donc, on a deux questions. Première question, pourquoi Hanouka? On a cette notion de Pirsoumanes qui n'existe que pour Hanouka. Et qu'est-ce qu'on aimait par Sem, d'ailleurs, d'accord? Qu'est-ce qu'on va montrer à l'extérieur? C'est la fiole, hein, qu'on va montrer à l'extérieur, hein, c'est pas la victoire militaire. Et deuxième question, c'est bah, pourquoi, justement, les Chachamim n'ont instauré dans la célébration de la fête que quelque chose par rapport à la fiole, mais rien par rapport à la victoire militaire? Ce sont nos deux questions. Pour commencer à répondre, on peut remarquer qu'en réalité, dans cette histoire de Hanouka, tout se cristallise, dans la façon dont c'est raconté hein, par les Chachamim, tout se cristallise autour de la fiole. Tout. Quand on regarde cette fois-ci, non pas dans le texte de Al-Anissim, mais dans le texte de la Gemara, qui nous parle de l'histoire de Hanouka, là-bas, qu'est-ce qu'on nous dit ? Que les Grecs n'ont pas cherché à détruire le temple de Jérusalem. Ils ont cherché à le souiller. Ce n'était pas du tout la même chose. Comment est-ce qu'ils vont souiller ce temple? Ils vont mettre une idole. Ils vont sacrifier un porc sur l'autel des sacrifices. Ils vont badigeonner du sang sur tous les murs du Beth Amikdash. Et le texte nous dit « Vetimeu kol hashemanim ». Et ils ont souillé volontairement toutes les huiles du Beth Amikdash, toutes les fameuses fioles d'huile. Il devait y en avoir des tonnes, hein, d'accord? Il y avait des grandes fabrications. Donc on fabriquait, on stockait à l'intérieur du Beth Amikdash toutes les petites fioles qui servaient pour chaque jour, d'accord? Toutes les petites fioles avec le tampon du Kohen Gadol. Il y avait des fioles pour l'hiver, il y avait des fioles pour l'été, puisque je vous rappelle qu'on allumait la nuit, la menorah, et qu'elle devait rester allumée la nuit. Donc selon la saison, nuit longue, nuit courte, il y avait plus ou moins d'huile dans les fioles en question, d'accord? Mais en tout cas, il devait y avoir des tonnes de fioles, d'accord, qui étaient stockées là-dedans. Et là, on nous dit dans la Gemara que les Grecs ont une volonté, timéou kolachemanim, ils vont chercher à souiller les huiles. Il n'y a pas écrit que dans la folie des Grecs, et qu'ils ont voulu tout saccager, que bah, comme ils ont fait tomber l'armoire, le placard avec toutes les fioles, alors que toutes les fioles sont rendues impures au passif. Non, il y a écrit « Timéou kol hashemanim ». Ils ont voulu volontairement rendre impures les fioles. Nos maîtres nous disent que, vous savez comment ils ont fait? Ils ont pris toutes les fioles, tac, ils ont posé, tac, 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 ils ont volontairement manipulé chaque fiole pour la rendre impure. Volontairement.
Il suffisait d'ouvrir la fiole ou même de la
fiole? En fait, il suffisait, alors c'est très simple le truc, c'est que à partir du moment où tu manipules la fiole, elle devient impure, d'autant plus, je précise tout de suite en plus, que le fameux sceau du Kohen Gadol qui était apposé sur la fiole, on nous dit que ce sceau-là, il représentait une valeur financière importante. C'était un objet noble, le sceau. Donc du coup, que faisaient les Grecs? Ils prenaient les huiles, les fioles, ils récupéraient le sceau, et hop, du coup, dès l'ouverture, ça devient impur. Ils l'ont entre les mains et c'est ouvert, ça devient impur. D'accord? Donc, volontairement, ils ont attrapé toutes les fioles. C'est pas qu'ils ont fait tomber l'armoire. Ils ont récupéré chaque fiole. Ils ont pris tous les sceaux qui étaient sur les trucs. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a su que la fiole qu'ils avaient trouvée avec le sceau du Kohen Gadol, qu'elle n'avait pas été manipulée par les Grecs. Parce que si elle avait été manipulée par les Grecs, ils auraient pris le sceau. C'est comme ça qu'on a su qu'elle n'a pas été manipulée, cette fiole.
Mais que manipuler sans le sceau qui est pris, ça veut dire que ça reste pur ou pas?
Non. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Parce que tu sais que selon les degrés de Kedusha, de l'objet que l'on manipule, les règles qui rendent impur sont plus sévères.
Est-ce que c'est comme un vin, l'eau mébouchale?
Je pense que c'est plus qu'un vin de l'eau mébouchale.
Ah oui.
Parce qu'un vin qui n'est pas mébouchale, tant qu'il est fermé, tu peux le manipuler. Je pense que pour les fioles, c'est un peu comme la trouma. Je pense que c'est un degré déjà qui rend impur Bemaga, le simple fait de toucher, je pense. À vérifier. En tout cas, il y a une volonté claire de la part des Grecs de rendre impur l'huile. Et la Gemara, quand elle continue, en nous disant que finalement les Hashmonaïm ont réussi à chasser les Grecs, etc., on nous dit quoi? Qu'ils ont cherché une fiole d'huile. Comme si finalement le combat, c'est la fiole d'huile. Il y a des Grecs qui veulent rendre impurs les fioles, et il y a des Kohanim qui veulent utiliser une fiole cachère, etc., pour l'utiliser pour allumer la menorah. Tout se cristallise autour de l'histoire de la fiole. Mais qu'est-ce que ça représente exactement, cette histoire de la fiole? Alors bien évidemment, on peut commencer par répondre en disant la fiole, c'est la flamme, c'est la Kedusha, c'est la Shekhina, c'est la manifestation de Dieu à l'intérieur du Beth Amikdash, d'accord, c'est le Ner Tamid, c'est la fameuse lumière qui restait en permanence allumée, perpétuelle à l'intérieur du Beth Amikdash, c'est la spiritualité, c'est ce qui s'élève vers le haut, d'accord. Donc bien évidemment, on peut répondre que le combat finalement, c'est sur la spiritualité. Et en fait, nos maîtres nous disent que effectivement, les Grecs sont les premiers de l'histoire à inventer un nouveau système d'extermination du peuple d'Israël, qui n'avait jamais été expérimenté jusqu'à présent. Ce système d'extermination, c'est l'assimilation. Jusqu'à présent, ça n'existait pas. Puisque qu'est-ce qu'on a eu jusqu'à présent? On n'a pas eu 50 trucs hein, jusqu'à présent. On a l'histoire de Pourim. Bien. L'histoire de Pourim, c'est l'extermination physique du peuple d'Israël. On cherche, on en veut au corps juif. Que ce corps soit religieux, pas religieux, représentant d'une Torah ou pas d'une Torah, peu importe, la stratégie, c'est de tuer le corps juif. Ça, c'est l'histoire de Pourim, qui était avant, donc, chronologiquement.
Les Babyloniens, pareil.
Oui, pareil, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait, les Babyloniens? Eux, ils nous ont exilés, ils nous ont massacrés et ils nous ont exilés. Donc, pour eux, à partir du moment où tu es massacré et exilé, ça y est, c'est terminé, ton histoire, elle est terminée. Les Perses, ils ont rajouté à ça l'extermination physique, quel que soit l'endroit. Parce que nous, on ne connaissait pas cette notion d'endroit. On se dit que tant qu'en Israël, il n'y a plus rien, et qu'on a tué tout le monde en Israël et qu'il reste quelques exilés par-ci, par-là, c'est terminé l'histoire. Les Grecs, les Perses, eux, ont inventé la notion de « je veux tuer le corps juif, quel que soit l'endroit où il est ». Donc, même en dehors de sa terre, le corps me dérange. Bien. Les Grecs vont inventer un nouveau système. Le système, c'est l'assimilation. On n'en veut pas votre corps. Restez vivant, il n'y a aucun problème. Au contraire, on aime bien les Juifs parce qu'ils ont un esprit qui ressemble au nôtre. Il y a des points communs terribles entre les Grecs et les Juifs. Au niveau de la réflexion, au niveau de la pensée, au niveau de la marshava. Tu rigoles ou quoi? Les Grecs, ils adorent. C'est la même chose. Vous aussi, vous êtes un peuple de réflexion, etc. Nous aussi, les Grecs, on est des philosophes. D'accord? On est pareil. Mais il y a un truc qui nous dérange. Votre adhésion à votre Torah, ça nous dérange. Du coup, regardez bien. Qu'est-ce qu'il touche? Quels sont les décrets les plus célèbres pris par les Grecs à l'encontre du peuple d'Israël? C'est très simple. dans l'ordre. Le Shabbat et le Rosh Chodesh. C'est la même ligne, hein. Shabbat, Rosh Chodesh, c'est le temps. D'accord ? C'est la sanctification du temps. La Brit Mila, c'est la sanctification du corps. Et le Bet Amigdash, l'interdiction de travailler à l'intérieur du Bet Amigdash, d'allumer la menorah, c'est la sanctification de l'espace, du lieu. Les Grecs viennent nous dire, arrêtez de mettre Dieu partout. Dieu a créé le monde, d'après les Grecs. Les premiers philosophes grecs, je vous rappelle, considèrent que Dieu a créé le monde. Mais, depuis qu'il a créé le monde, il s'est détaché de la création. Il n'y a plus aucun lien, il n'y a aucune incidence, il n'y a pas d'implication de Dieu sur Terre. Mais il a créé le monde, certes, mais il n'y a pas de Kedusha quelque part. Tout est pareil, tout est pareil. Tous les hommes sont pareils, tous les moments sont pareils, tous les lieux sont équivalents. Tout est pareil. Nous, le peuple d'Israël, on est en train de proclamer qu'il existe trois catégories de Kedusha. Il y a la sanctification du temps. Tous les jours ne sont pas équivalents. Il y a des jours qui portent en eux une Kedusha particulière. Le Shabbat, ce n'est pas comme les autres jours de la semaine. Le Rosh Chodesh, c'est ce qui nous permet de fixer le calendrier. Donc, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une sanctification dans les jours de l'année. Ça, c'est la sanctification du temps. La Brit Mila, c'est la sanctification du corps. On va montrer que on peut avoir de la Kedusha dans ce qui est physique, dans ce qui est matériel, jusqu'à dire qu'il y a de la Kedusha dans la sexualité. C'est ça la Brit Mila. Les Grecs nous disent, mais vous êtes complètement malades. Il n'y a pas de Kedusha dans la matière et encore moins dans la sexualité. Donc ils nous empêchent de faire la Brit Mila. Et pareil pour le lieu, pour un Grec, il n'y a aucune différence que tu sois à Jérusalem, que tu sois en Grèce, à Rome, à Paris, c'est kiff-kiff, c'est tout pareil. C'est tout pareil. Le peuple d'Israël nous dit non, 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 il y a une Kedusha du lieu. Le Beth Amikdash, c'est pas pareil que les autres endroits. Le Kodesh à Kodashim, c'est encore plus sacré que le reste du monde, etc., etc. Donc on sanctifie le lieu. Et donc les Grecs sont contre cela, contre la sanctification de ces trois choses-là. Donc ils veulent assimiler le peuple juif en attaquant. Comment on fait pour nous assimiler ? Eh bien tout simplement en nous disant, en nous imposant le fait qu'il n'y a pas de Kedusha nulle part, pas dans le lieu, pas dans le temps, pas sur l'homme, il n'y a pas de Kedusha, rien. Tout est équivalent, partout, au même moment, tout pareil. Et qu'est-ce que la Kedusha ? La Kedusha, c'est quand on met une limite. C'est ça, une Kedusha. Rashi, sur la paracha de Kiddushin, Rashi, Nachmanide, etc., nous explique, c'est quoi la Kedusha ? On nous demande d'être Kadosh. Le peuple d'Israël, vous êtes un peuple Kadosh. Soyez saint. Mais ça veut dire quoi être saint ? Réponse : détachez-vous de certaines choses. Mettez une limite à l'expansion de vos désirs. C'est ça la Kedusha. Exemple tout bête, hein, mais c'est donné par nos Chachamim, donc je ne fais que le citer. Tu es en train de manger un bon repas ? Ne mange pas tout. Laisse un petit morceau. Ah non, mais mets une limite à ton appétit. Mets une limite à ta consommation. Mets une limite à ta façon de jouir de l'ensemble de la création. Mais une limite, c'est ça la Kedusha, c'est mettre une limite. Et donc, le peuple juif porte en lui cette notion de dire qu'il faut mettre une limite aux choses. Quand je fais un Shabbat, je mets une limite au temps. Le temps ne m'appartient pas. Il y a des moments qui ne sont pas en ma possession, qui appartiennent à Kadosh Baruch Hu, qui sont sacrés. Il y a une limite au temps. Pareil pour le lieu, pareil pour la personne, pour nos propres désirs, pour la sexualité. Il y a une limite. Il faut mettre une limite aux choses. C'est ça la Kedusha. Et nécessairement, du coup, il faut mettre une limite à notre système de réflexion, à notre système de pensée. Et ça, les Grecs ne peuvent pas le supporter. Parce que pour un philosophe grec, l'esprit ne doit connaître aucune limite. Tant que tu peux justifier intellectuellement ton raisonnement et que tu arrives à une conclusion, quelle que soit la conclusion, mais que tu l'as justifiée de manière intellectuelle, 1, 2, 3, 4, jusqu'au bout de ton raisonnement, le résultat est forcément bon. Ça, c'est la philosophie grecque. Dans le système de pensée juif, ça n'existe pas. tu ne peux pas avoir n'importe quelle conclusion simplement parce que tu l'as justifié de manière intellectuelle. L'esprit juif doit aussi avoir une limite. La limite des principes de la Torah, la limite des mitzvot, la limite de ce que Dieu nous demande à l'intérieur du texte de la Torah. Tu ne peux pas arriver à n'importe quelle conclusion juste parce que tu l'as justifié intellectuellement. Ce n'est pas possible. Ton esprit doit rentrer dans le cadre proposé par la Torah. C'est ça la Kedusha. Le combat, en réalité, entre les Grecs et le peuple juif, il est là. Mettre une limite aux choses ou ne pas avoir la moindre limite. Mettre de la Kedusha ou ne pas mettre de Kedusha. C'est un combat qui est exclusivement spirituel. Exclusivement spirituel. Pour sortir de ce combat, il fallait bien une victoire militaire. Mais ce que l'on manifeste, ce que l'on montre dans nos gestes, c'est la fiole. C'est la bougie, c'est la Hanoukia qu'on allume. Pourquoi ? Parce que c'est la Hanoukia qui représente la spiritualité. Donc du coup, qu'est-ce que l'on fait dans le pire soumanès ? Qu'est-ce que l'on veut montrer à l'extérieur ? On veut montrer la flamme juive. On ne veut pas montrer le corps juif. On veut montrer l'esprit juif. Donc du coup, on a une mitzvah de pire soumanès pour montrer que malgré le temps, malgré l'exil, malgré les persécutions, que l'esprit juif ne peut pas s'éteindre. C'est pour ça qu'on a cette notion d'allumer à l'extérieur, de montrer à l'extérieur cette fameuse lumière. Et du coup, on comprend maintenant pourquoi c'était les Kohanim qui devaient mener ce combat. Parce que c'est les Kohanim les représentants de la spiritualité au sein du peuple d'Israël. Ça ne pouvait être qu'eux qui menaient le combat en question. Pour bien montrer que c'est un combat spirituel. Et leur cri de ralliement, ils avaient deux cris de ralliement. Le premier, c'est Maccabi. Micha Moucha Baelim Hashem, qui est comme toi dans le ciel, toi, Kadosh Baruch Hu. Donc c'est un cri spirituel. Et le deuxième cri de ralliement, c'est Mi Lachem Elai. Celui qui est pour Dieu, qui vienne se rallier à moi pour mener ce combat. Ça veut dire que c'est un combat qui a été mené pour défendre la spiritualité du peuple juif, la lumière du peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'à Hanouka, il n'existe dans la Halakha aucune obligation de faire un festin. Il n'y a pas de repas à Hanouka.
Tout l'inverse de Pourim.
Tout l'inverse de Pourim.
Oui, c'est le matériel.
Exactement. Comme à Pourim, le combat, c'est un combat contre le corps juif. Alors comment on célèbre la victoire ? On montre qu'on est vivant physiquement. Physiquement, on fait un festin. Comme le combat de Hanouka, c'est un combat spirituel, c'est la seule chose que tu vas montrer à Hanouka, c'est la lumière. Il n'y a pas de festin. Il n'y a aucune halakha qui nous dit de manger quoi que ce soit, d'accord ? Ni beignet, ni chouros, ni tout ce qui cuit dans l'huile, etc. D'accord ? Il n'y a aucune mitzvah de manger. On dit, c'est bien quand même, l'halakha va nous dire, si tu peux, c'est bien de faire une seouda pour montrer que tu es content. Mais ce n'est pas une obligation comme à Pourim. Rien à voir. Pourim, c'est une mitzvah de faire le bicheté. À Hanouka, il n'y a pas d'obligation de manger. Il n'y a pas de repas, il n'y a pas de kidouche, il n'y a rien. D'accord ? Si ce n'est voilà, de grignoter comme ça pour se faire plaisir. Mais l'essentiel, c'est l'étude. À tel point que nos maîtres nous disent que pendant la semaine de Hanouka, on doit faire un effort pour étudier plus que d'habitude. En général, on fait moins, mais c'est dommage. Mais en fait, on devrait faire plus. Parce que c'est le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est l'étude, c'est l'esprit juif. Et pour terminer, la menorah du Beit Hamikdash, puisque c'est quand même le symbole, c'est la menorah du Beit Hamikdash, il y a 7 branches. Il y a plein d'explications pourquoi 7 branches, on en a déjà donné ensemble à d'autres cours, mais je vous donne juste celui qui m'intéresse. Pourquoi 7 branches dans la menorah ? On nous dit que chacune des branches vient représenter un des bergers du peuple d'Israël. Un peu comme les houshpizines de Soukhot. D'accord ? Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, etc. D'accord ? C'est les 7 branches. Chaque branche vient représenter un berger.
Comme les 7 du Sefer
Tzvi. Oui, c'est toujours pareil. D'accord ? Toujours les 7 qui tournent dans tous les sens. Et on nous dit, et la branche centrale, la quatrième, c'est Moshe. La branche centrale, c'est Moshe. Et quand on allumait la menorah, qu'est-ce que l'on dit ? On dit « El moul pene ha menorah ya iru shivat anerot » que les mèches de la menorah devaient être orientées vers la mèche centrale, vers la branche centrale. Ça veut dire que les branches de droite avaient leur mèche et leur flamme donc qui étaient vers la gauche, les branches de gauche avaient leur flamme qui était vers la droite. Et on dit pourquoi ? Parce que symboliquement, on veut que toutes les lumières soient là pour être au service de la branche centrale. La branche centrale, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est la Torah. D'accord ? Celui qui nous a amené la Torah. Celui qui porte en lui la Torah. Le but de la menorah, c'est d'être au service, de prendre conscience qu'on doit être au service de la branche centrale qui est la Torah, et rien d'autre. C'est ça la menorah. Hanouka, ce n'est que ça. C'est pour ça qu'il y a un pirsoumanes, c'est pour ça qu'on va à l'extérieur, c'est pour ça que la seule mitzvah, c'est d'allumer, bien que la victoire militaire soit plus importante. Certes, mais il n'empêche que ce qu'on vient, la victoire militaire, elle était là pour protéger, en fait, la flamme. Elle était là pour ça. C'est pour ça que quand les Grecs ont gagné la guerre, ils ne sont pas mis à faire un festin. Ils ont gagné la guerre, hop, tout de suite on va allumer la menorah. Pourquoi t'es si pressé? Ça va, il n'y a rien qui presse. Mais non, c'est pour montrer justement qu'on a mené ce combat pour allumer la menorah, pour la lumière du peuple d'Israël. C'est ça en fait, ça, la fête de Hanouka. C'est uniquement comment on met au centre la lumière du peuple d'Israël.
Ils auraient pu faire autre chose.
Quoi?
Par exemple, se purifier. Comme
oui, mais ça, ça met du temps.
Reconstruire.
C'était pas détruit?
Et puis même la menorah, ils vont mettre de la lumière. Mais in fine, cette lumière, elle apporte quoi de concret immédiatement?
Eh bien, rien, justement. C'était la question de David. C'est un miracle qui ne sert à rien. Alors pourquoi Dieu le fait s'il ne sert à rien, ce miracle?
Et puis trouver la fiole, on aurait pu trouver aussi autre chose.
Khadak, pourquoi est-ce que Dieu fait ce miracle alors qu'il ne sert à rien? Pour nous montrer que quand votre combat, il est pour le spirituel, moi, Hachem, je suis avec vous. Je suis avec vous même pour des choses qui sont inutiles. Je suis avec vous, je vous montre que c'est le bon combat. Donc même ce miracle-là, il sert à rien, techniquement, il sert à rien. On aurait pu faire différemment, on aurait pu faire sans. On aurait pu attendre encore une semaine, on n'était plus à une semaine près. Puisque vous, les Kohanim, votre but, votre état d'esprit quand vous avez mené le combat, c'était d'allumer la menorah, alors moi, je me mets avec vous.
Est-ce que c'est pour aussi cette raison que Matityahu est le seul à avoir eu une bénédiction qui est consacrée dans toutes les Amidot pendant 8 jours et également dans les Birkat Amazon et pas les autres?
Ouais.
Moshe Rabbeinu, il n'a pas une bracha à lui.
Alors, je comprends ce que tu veux dire. C'est pas une bracha, mais c'est une évocation, on va dire plutôt. On évoque son nom.
Beaucoup ont sauvé le peuple.
C'est ça, mais ils n'ont pas eu autant.
Qui est physique comme Mordechai. Et lui, il a sauvé un héritage spirituel peut-être différent.
Ouais, c'est sûr. Et n'oubliez pas quand même que dans notre façon de célébrer, dans le rituel, la façon de célébrer Hanouka, c'est deux choses. C'est le Halanissim et c'est le Halel. D'accord ? N'oubliez pas une chose, juste pour finir avec ça, que le Halel est toujours instauré pour les miracles surnaturels. Et que le Halanissim est toujours instauré pour les miracles naturels. Exemple tout simple, Pessah. On fait que du Halel, il n'y a pas de Halanissim. Parce que Pessah, c'est tout miraculeux, tout surnaturel. Pourim, c'est que du naturel, apparemment naturel, donc on fait un Halanissim. Que un Halanissim, il n'y a pas de Halel. Hanouka, c'est et la fiole et la victoire militaire. Pour la fiole, qui est un miracle surnaturel, on fait le Halel. Pour la victoire militaire, qui est un miracle naturel, on fait le Halanissim. C'est comme ça que la liturgie a été construite.
Il n'y a pas de Halel hein, pour Rim.
Vas-y. Non, pas de Halel.
Donc Halanissim.
Ça rentre parfait ce truc-là.
Parce que ça n'a pas été en Eretz Israël.
Ok, on peut trouver toutes les raisons. D'accord. Mais il n'empêche que, concrètement, dans la célébration instaurée par les Chachamim, les offices, d'accord, le Halel, c'est quand il y a un miracle surnaturel, le Halanissim, c'est pour les miracles naturels.
On est d'accord que le miracle sur la fiole, c'est pas de l'avoir trouvée ou d'avoir été impure, c'est qu'elle a duré plus de temps.
Oui.
D'accord.
Se pose la question.
Ce qui est surprenant, c'est qu'on fait le Halel complet.
On fait le Halel complet, complet.
Alors, après Pessah, on fait
exactement, exactement. Donc Hanouka, c'est vraiment une dimension qui est une dimension incroyable, hein, Hanouka, incroyable. On a jamais comme ça 3 Sefer Torah. Enfin, on a aucune fête où on a 3 Sefer Torah. Attends, ça va, c'est une fête Hachamim. Attends, ça va. 3 Sefer Torah, le Halel complet, la bracha du Halel complet. Enfin, c'est énorme, hein, ce qu'on, la façon de célébrer la fête de Hanouka. C'est énorme. Khazakouba. Allez, Gmara.